Eh bien, mes amis, nous rendons grâce au Seigneur de nous permettre ce soir encore de terminer cette journée à l'écoute du Fils de l'homme dans cette soirée du 12 août 1980. J'ai eu l'occasion de vous rappelez qu'il y avait dans les évangiles plus de 80 textes où nous trouvons le Seigneur Jésus se nommant lui-même le Fils de l'homme. Il est évident qu'au cours de ce camp, je ne pourrai pas étudier avec vous ces 80 textes. Nous essayerons cependant de les grouper le plus possible et de vous en donner une meilleure connaissance, car apprendre à connaître le Fils de l'homme, c'est apprendre à connaître Jésus. Et l'on ne peut pas connaître Jésus sans l'aimer davantage. On ne peut pas pénétrer dans son intimité sans commencer par lui ressembler, par prendre ses habitudes, par avoir sa délicatesse, ses sentiments les plus profonds. Et cet après-midi encore, ensemble, nous remarquions que nous devons être habités par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je me demande ce soir si vous réalisez qu'en vos cœurs existe davantage peut-être qu'hier les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine et qui a accepté à s'abaisser parce qu'il nous aimait et parce qu'il voulait nous amener justement dans la position où il se trouvait dans la gloire éternelle. Au cours de nos précédentes soirées, nous avons donc découvert quelques-uns des droits du Fils de l'homme. Tout d'abord, son droit d'être aimé. Car lui nous a aimés le premier. Oh, que je voudrais que vous deveniez conscient de l'amour dont il vous aime aujourd'hui. Et ne plus douter de l'amour qu'il vous témoignera dans l'avenir. Car l'amour qu'il nous a manifesté dans le passé, c'est un amour sublime. Il a donné sa vie pour nous, et on ne peut pas donner plus que sa vie. Quel témoignage! Nous savons que le Seigneur a aimé le monde au point de donner sa vie pour le salut du monde. Alors, s'il nous a aimés, alors que nous étions encore des pécheurs, alors qu'il n'y avait absolument rien d'aimable en nous, comment pouvons-nous douter maintenant que nous lui appartenons qu'il pourrait nous abandonner ou nous laisser? Il est mort pour nous lorsque nous étions des impies, combien plus maintenant serons-nous sauvés par sa vie, et sa vie et qui est impérissable. Alors, que nous puissions vivre dans le présent, dans l'amour de Dieu, et nous réjouir quant à l'avenir de l'amour de Dieu, dont rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Nous avons considéré ensuite son droit à notre obéissance, son droit d'être obéi, car lui nous a donné un exemple, il est devenu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. À notre tour, puissions-nous trouver notre joie à lui obéir et découvrir vraiment que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Son joug est aisé et son fardeau est léger. Que lui obéir soit toute notre joie, tout notre plaisir. Enfin, hier soir, nous avons considéré le Fils de l'homme dans son droit de pardonner, car il était Dieu et à son tour, puisqu'il nous a pardonné, il désire que nous aussi, nous pardonnions à nos frères. Et je voudrais vous demander ce soir, y a-t-il du pardon dans votre cœur pour ceux qui peut-être vous ont offensé? Voyez-vous, c'est un des grands obstacles à l'exaucement de nos prières. Si nous n'avons pas pardonné à l'un ou l'autre de nos frères, ou l'une ou l'autre de nos sœurs, ou à quelqu'un qui serait peut-être même un ennemi, le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Job a beaucoup souffert de ses propres amis. Mais Dieu, quand il a voulu délivrer Job, lui a demandé d'abord de prier pour ses amis, qu'il avait pourtant offensés. Et quand Job eut prié pour ses amis, alors Dieu lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu, mais pas avant. Et Job aurait pu vraiment rester amer à l'égard de ses amis qu'il avait si mal jugés et qui avaient laissé comprendre d'une façon très nette que s'il passait par de si grandes épreuves, c'était certainement parce qu'il y avait dans sa vie quelque chose de caché, un interdit qu'il n'avouait pas, alors que Job se savait en règle avec le Seigneur et avec son prochain. Il a été donc mal jugé par ses amis. Eh bien, Dieu lui a demandé, prie d'abord pour tes amis, et ensuite je te donnerai la bénédiction. Et Job a suivi l'ordre du Seigneur. Donc, sachons pardonner et nous serons exaucés. Et je voudrais ce soir, en écoutant la parole de Dieu avec vous, le laisser nous dire qu'en fait, le Fils de l'homme n'a pas seulement certains droits, mais qu'il a tous les droits. Car il est Dieu et il se présente lui-même à son peuple comme le maître du sabbat. C'est-à-dire comme l'auteur même de la loi. Et nous allons ouvrir maintenant les Écritures. Dans le chapitre 12 de Matthieu. Nous aurons, si Dieu nous en donne la force, l'occasion de contempler quelques tableaux du Fils de l'homme dans les évangiles. Tout d'abord, le Fils de l'homme, maître du sabbat. Mais avant de lire, nous voulons adresser une supplication au Seigneur. Comme le psalmiste autrefois, nous voulons te dire, ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir les merveilles de ta loi. Captive notre intérêt, ouvre notre intelligence et ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir avec douceur ta parole. Oh, que nous puissions te voir ce soir, Seigneur Jésus, nous parler toi-même, toi le plus beau des fils des hommes, toi dont la grâce est répandue sur tes lèvres. Oh, que nous puissions recevoir, comme jadis les foules qui t'écoutaient, tes paroles de grâce et de libération, afin que nous soyons plus de ces légalistes, de ceux qui veulent contraindre les autres à observer la loi, de ceux qui mettent des fardeaux écrasants sur les autres et qui ne sont pas capables de les lever du petit doigt. Saisis-nous, Seigneur Jésus, fais tomber les écailles de nos yeux, illumine-nous par ta parole, qu'elle devienne une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, et réchauffe nos âmes par la puissance de ton esprit pour faire de nous désormais dans ce monde où il fait si froid pour toi une vive flamme d'amour. Amen. Eh bien, nous lisons dans ce chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Vous n'avez pour ainsi dire pas besoin de commentaires. Nous désirons surtout vous donner le goût de la parole de Dieu. Jésus vient de parler du repos. Jésus vient d'inviter les foules qui venaient à lui à trouver en lui le repos qu'elle cherchait. Au verset 28 du chapitre 11, nous avons ce texte si merveilleux que j'ai cité ce matin. « Venez à moi, vous tous, et qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est le repos de l'âme, le repos qu'il donne gratuitement en ayant accompli notre sanctification et notre purification à la croix. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je disais qu'il y a un repos qu'il donne, et il y a un repos que l'on trouve dans la vie pratique, marchant quotidiennement en suivant les instructions du Seigneur, le repos dans les circonstances. Et il ajoutait, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, en ce temps-là, vous comprenez maintenant pourquoi il est quelquefois nécessaire de lire les versets précédents, pour voir dans quelles circonstances les choses se sont passées. Donc, après qu'il eut dit ces choses, dans ce même temps, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat, ce jour qui avait été consacré par l'Éternel pour le repos de son peuple Israël, où l'on ne devait faire aucune œuvre en ce jour-là pour qu'il y ait du relâche, non seulement parmi les gens de son peuple, mais leurs serviteurs et même leurs animaux. Mais ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, s'écrièrent. Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Pensez donc. Ils en arrivaient à prétendre, parce que on dépasse toujours les commandements divins, que prendre un épi de blé, le frotter dans ses mains, c'était travailler. Et alors, comme on ne devait pas travailler, faire simplement ce petit mouvement pour manger le blé, on avait transgressé le sabbat, la loi du Seigneur. Or, si vous lisez le précepte, vous voyez qu'il est dit, quand tu passeras près du champ de ton voisin ou dans le champ d'autrui, tu pourras prendre des épis de blé à la main, mais tu ne passeras pas la faucille. Voilà ce qu'était le commandement du Seigneur. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, au verset 25, vous trouvez ce texte. La défense de venir dans un champ avec une faucille. Mais on pouvait arracher un peu de blé à la main pour s'en nourrir. Eh bien, les pharisiens accusent le Seigneur de laisser ses disciples transgresser le sabbat. Et c'est de là que part toutes ces accusations contre le Seigneur Jésus. C'est de ce fait-là, de cette petite chose, de ce certain jour de sabbat, que se dressent les ennemis du Seigneur et que dès ce moment-là, on cherchera à le faire mourir. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Il faudrait lire ici dans le livre de Samuel, où David, roi choisi par le Seigneur, mais rejeté par Saül, est poursuivi par les soldats de Saül. Et un jour qu'il est dans la détresse et qu'avec ses troupes, il a faim, eh bien, il entre dans la maison de Dieu, verset 4, vous avez ça dans le livre de Samuel, et il mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Chaque semaine, on renouvelait ces pains de proposition et seuls les sacrificateurs avaient le droit d'en manger. Mais David, à l'extrémité, avec ses hommes, lui qui se sait être le roi choisi par Dieu, mais qui ne règne pas encore parce que Saül le veut sa mort, eh bien David pense qu'il peut se nourrir de ces pains de proposition, et le sacrificateur Abiathar les lui donne. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables, parce que le jour du sabbat, les sacrificateurs œuvraient quand même dans le temple? Alors, voilà les deux arguments que le Seigneur donne. Nous verrons la valeur de ces arguments dans un instant. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. On met tout le temps le temple en avant, les ordonnances du temple, toutes les lois cérémonielles, mais il y avait plus que le temple. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Jésus. Il y avait le Seigneur du temple. Comprenez-vous? Mais aujourd'hui, si vous en faites une application actuelle, est-ce que vous ne trouvez pas que cela nous donne un enseignement très précis? Pour beaucoup de personnes, l'église de Pierre, ou l'institution ecclésiastique, ou les préceptes que les hommes d'église ont établis, passent avant les commandements essentiels du Seigneur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que cela a un écho dans vos cœurs? Il y a ici plus que le temple, il y a le Seigneur. Mais que suivrez-vous? Le Seigneur ou les ordonnances religieuses? Que ce soit dans le catholicisme, ou que ce soit dans le protestantisme, ou dans l'église orthodoxe, partout. Nous avons établi des traditions et finalement ces traditions annulent les commandements du Seigneur. Nous arrivons à couler le moucheron et à avaler le chameau. Est-ce vrai ou est-ce faux? Je parle à votre conscience. Il y a ici, disait Jésus, plus que le temps. Vous voulez garder la loi, vous voulez observer le sabbat, mais vous rejetez le Seigneur du sabbat. Vous voulez le repos du septième jour, mais vous ne voulez pas de celui qui donne le vrai repos. Car le repos du septième jour avait été donné, si vous lisez l'Ancien Testament, et le livre de l'Exode en particulier, au chapitre 31, où il est parlé du sabbat. Le sabbat, nous dit le Seigneur, était donné à ce peuple d'Israël pour qu'il lui serve de signe de son alliance. Le sabbat en Israël était le signe que Dieu avait fait alliance avec ce peuple. Mais qui avait établi cette alliance? Dieu. Mais si Dieu, en Christ, au milieu de son peuple, est rejeté, est-ce que l'alliance va subsister? Est-ce que le signe de l'alliance comptera encore? Réalisez, réfléchissez un peu. Non. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, cette ancienne alliance va être mise de côté et le Seigneur va faire une nouvelle alliance. Qui a fait l'ancienne? Dieu, le Seigneur. Mais maintenant qu'on a transgressé l'ancienne alliance, le Seigneur vient lui-même au milieu de son peuple et décide de faire une nouvelle alliance. Mais il y a ceux qui tiennent à l'ancienne alliance. Vous allez revoir tout cela dans l'épître aux Hébreux. C'est pourquoi je crois que le Seigneur m'a conduit ce soir pour que nous restions quand même dans le même thème à vous parler du Seigneur du sabbat. Le sabbat, le repos de Dieu, c'était un signe de son alliance. Il voulait pour son peuple le repos. Mais ce repos, eh bien, les hommes ne l'ont pas trouvé parce qu'ils ont transgressé la loi du Seigneur. Et quand Jésus lui-même est venu et qu'il a montré que c'était lui le repos et que c'était lui qui le donnait, il fut rejeté. Alors, il libère en quelque sorte ses disciples qui du reste ne sont pas coupables. Vous avez hurlé ce soir, pas coupable, pas coupable, eh bien, Jésus l'a aussi dit. Pas coupable, c'est dans l'Écriture, hein, verset 5. « Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple, c'est donc lui-même, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Je ne sais pas ce soir si vous avez condamné des innocents, mais en tout cas, je voudrais vous rappeler que vous devriez prendre plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et ne pas condamner des innocents. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait la loi. Alors il peut en disposer. Il peut disposer du sabbat. Et ce que vous avez pu comprendre déjà ce matin dans l'étude de l'Épître aux Hébreux, c'est que ce repos divin, ce repos de Dieu, ce repos du septième jour a été troublé par quoi? Par le péché de l'homme. Et Dieu s'est remis au travail, si je puis dire ainsi, en employant une parole du Fils de l'homme lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Quand on l'accuse de faire un miracle le jour du sabbat, il dit « Mon Père travaille et moi aussi je travaille ». Dieu s'est remis à l'œuvre pour accomplir le plan de la rédemption. Et alors, dans beaucoup de passages, vous pouvez lire les versets suivants. Dans la même journée, étant parti de là, verset 9, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison ?» les jours de sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. Parce que l'histoire du blé, ils savaient bien que les disciples n'avaient pas pris une faucille. Ils ont commencé par accuser Jésus de laisser ses disciples arracher des épis. Mais ça, c'était autorisé. Mais eux allaient si loin, ils voulaient trouver une accusation contre Jésus. Alors, comme c'était pas assez fort ce qu'ils avaient dit au sujet du blé, maintenant, ils vont l'observer. Voilà un homme qui a une main sèche. Alors, est-ce qu'il est permis de faire du bien, de guérir un jour de sabbat? Regardez comme Jésus leur répond. Je trouve que c'est magnifique. Apprenez du Seigneur comment vous devez parler aux gens. On vous pose une question, mais vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite. C'est là notre erreur. Répondez par une autre question. Oui, mais c'est vrai, parce qu'alors vous êtes brûlé tout de suite. Il y en a un jeune de jeunesse en mission qui m'a dit, mais monsieur Racine, comment est-ce que je dois faire? Je témoigne. Et puis, voilà, la première chose qu'on me dit, est-ce que vous priez Marie? On me dit, c'est fini, on peut plus discuter. J'ai dit, mais t'as pas besoin de répondre. Il dit, ah, vous priez Marie, vous la priez? Mais c'est intéressant. Ben, au lieu de faire une tête affreuse, hein, comme les éléphants qui sont entrés dans l'arc. Mais non, alors, comprenez-le bien. Ne vous laissez pas désarçonner. Et elle vous exauce, Marie? Ils vous diront peut-être oui, peut-être que non, enfin je ne sais pas. Mais vous continuez la conversation. Puis vous lui dites, oh vous savez, j'aime beaucoup Marie. Et même alors, c'est assez bizarre, je suis à son école. Alors, vous demanderont peut-être l'adresse. Oui, j'essaye d'être à son école. Elle qui nous a donné comme grand enseignement, faites tout ce que Jésus vous dira. Et puis, vous commencez comme cela. Et puis, on trouve un minimum sur lequel on est d'accord. Parce que sans ça, vous creusez tout de suite le fossé et c'est rompu. Tandis que vous pouvez continuer une conversation. Alors, ça, je dis ça entre parenthèses, mais reprenez, moi j'ai appris cela du Seigneur. C'est pas nécessaire de répondre à une question. Questionnez-vous-même. Puis, le Seigneur leur disait, si vous me répondez pas à ma question, moi non plus, je vous répondrai pas. Mais oui, mais parce qu'il faut avoir cette sagesse du Seigneur. Vous savez, c'est pas dans les écoles de théologie que vous apprenez cela. C'est au pied du Seigneur. Ni en faisant beaucoup de psychologie. Il leur répondit. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Alors ça c'est clair, hein? Parce que quand on a une brebis et on risque de perdre une brebis, on se balance bien de savoir si c'est le jour du sabbat ou pas, on retire la brebis de la fosse. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Quel est le résultat? Vous voyez qu'on est méchant, 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 méchant. Alors, les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Et ce sont des gens religieux, et plus durs. Il a transgressé la loi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une guérison. Ah, la religion! Quel crime n'a-t-on pas commis dans la religion? Que de sang répandu par les églises! Relisez le chapitre 18. De l'Apocalypse, et vous serez édifiés. Mais ce maître du sabbat, qui a droit de disposer du sabbat et de faire du bien le jour du sabbat, il nous apprend qu'il n'est pas venu pour être servi, tout en étant le maître, mais qu'il a voulu servir. Il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais vraiment pour les sauver. Alors, je voudrais vous montrer dans quatre petits tableaux l'attitude du Seigneur. Tout d'abord, vis-à-vis des Samaritains, qui étaient des gens idolâtres. L'attitude du Fils de l'homme vis-à-vis des Samaritains. Puis, l'attitude du Fils de l'homme vis-à-vis de l'ambition de ses propres disciples. L'attitude du Fils de l'homme vis-à-vis des petits-enfants, et enfin l'attitude du Fils de l'homme vis-à-vis d'un adulte, d'un public. Alors, nous lisons maintenant Luc chapitre 9, parce que nous allons prendre ce soir encore un bain dans l'Écriture sainte, car la parole a cette puissance de laver nos âmes et nos cœurs et de les rendre propres pour lui. Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Pour y faire son ascension? Quand on lit ce verset, hein, le temps d'être enlevé du monde, qu'est-ce que ça veut dire? De mourir. Hein. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, parce que c'est tout un chemin de traverser la Samarie. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Quand les Samaritains voyaient un voyageur se dirigeant vers Jérusalem, eh bien, on ne le recevait pas. Et on pouvait même lui faire un mauvais parti. Et voyez-vous, c'est la même chose encore quand vous partez d'un pays arabe et qu'on sait que vous allez en Israël aujourd'hui. Ça n'a pas changé. C'est assez extraordinaire. Et alors, puisque on ne l'a pas reçu, voilà des disciples qui sont des intimes du Seigneur, Jacques et Jean, voyant cela dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Parce que le Seigneur leur avait donné de la puissance. Et vous savez, c'est très dangereux de manier de la puissance. Le Seigneur avait donné du pouvoir à ses disciples. Et il les avait envoyés deux à deux, et ils avaient expérimenté qu'en effet, ils avaient un pouvoir, ils avaient guéri des malades, ils avaient chassé des démons, et alors ils étaient revenus très glorieux en disant, « Seigneur, les démons même nous sont assujettis. » Et puis le Seigneur leur avait dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont assujettis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Mais étant très conscients de la puissance que le Seigneur leur avait donnée, eh bien, ils voulaient l'employer aussi pour venger le Seigneur de cet affront. C'est le Seigneur, c'est notre Seigneur, on ne veut pas le loger ici. Eh bien, ils verront, ils appelleront les pompiers après nous. Alors, bam, on va faire descendre le feu du ciel. Et même, ils ont une inspiration de l'Écriture. Vous savez de qui ils s'inspirent? Ils se croient qui, ces deux disciples? Des Élie, n'est-ce pas? Élie qui fait descendre le feu du ciel au temps de où il était sur le Carmel et quand les hommes du roi d'Israël viennent à lui, eh bien, Élie fait descendre le feu du ciel qui consume plusieurs cinquantaines d'hommes. Alors, nous allons faire descendre le feu du ciel. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus se tourna vers eux. Oh, regardez ça. Regardez. Vous êtes déjà senti sous le regard du Seigneur? quand vous avez un de ces sentiments.
Ah ben celui-là,
il faudrait vraiment qu'il lui arrive quelque chose. Si Dieu est juste, il ne va pas laisser ça.
Non, Jésus vous regarde. Et quand il vous regarde, écoutez, il les réprimanda, disant,
vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mais eux, ils pensaient qu'ils avaient le Saint-Esprit, hein? Eh oui, mais avec le Saint-Esprit, ils voulaient exterminer les autres. Attention, car le Fils de l'homme, voilà de nouveau une expression, hein, est venu non pour perdre les âmes des hommes. Il aime les âmes des hommes même qui refusent de le loger. Il patiente encore. Et c'est si vrai qu'après son sacrifice, une multitude de ces Samaritains que les apôtres voulaient griller, eh bien, une multitude se sont convertis par un certain évangéliste qui s'appelait Philippe, qui va à Samarie et qui trouve des cœurs ouverts qui se convertissent au Seigneur. Et notre cher Jean, envoyé avec Pierre, viennent prier pour ces Samaritains pour que descendent non plus le feu du ciel, mais le Saint-Esprit. Vous trouvez pas que c'est merveilleux, ça? Ah, le Seigneur a de l'humour. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, il a réprimandé Jean, mais Jean a compris la leçon. Et Jacques, vous savez, c'est un brave frère. Il était le premier apôtre martyr. Alors, nous ne voulons pas les juger, mais nous voulons nous reconnaître dans ces gens. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu des petits Jacques? J'ai pas dit Jacques. Des petits gens. Il paraît qu'il a les deux noms, ce frère-là. Alors, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, soulignez ça dans vos Bibles, pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et alors, quand on ne nous reçoit pas dans un village, qu'est-ce qu'on fait? On va dans un autre, c'est pas plus difficile que ça. N'est-ce pas? Quelques kilomètres de plus. Et ils allèrent dans un autre bourg. Voilà, notre tableau de ce maître du sabbat, mais qui n'emploie pas sa puissance pour écraser, mais pour sauver. Maintenant, nous passons à un autre tableau dans Marc 10. Marc, chapitre 10, à partir du verset 35e, où nous verrons l'attitude du Fils de l'homme vis-à-vis de l'ambition de ses disciples. Et voilà que nous retrouvons nos Jacques et Jean. Les fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'il était Zébédée comme métier? Pêcheur, oui. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, c'est bien le maître du sabbat, il le reconnaît, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Ces gens qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur les autres, ils ont une petite faveur à demander au Seigneur. Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» C'est beau, hein, comme il parle, le Seigneur. « Mais accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » «
Tant pis pour les Samaritains. Et nous, nous serons assis.
Et Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Ils ignorent quand même bien des choses. Ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés, une certaine fois. Puis quand ils sont en train de prier pour eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il doit mourir, hein, le baptême est le signe de la mort. Nous le pouvons, disent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Il leur annonce que finalement, plus tard, ils seraient associés aussi à ses propres souffrances puisque Jacques aurait la tête tranchée à Jérusalem et que Jean, selon la tradition, subirait le martyre à Éphèse. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Vous les connaissez? Il y en a peut-être un parmi vous ou une. Pourquoi pas? Je ne sais pas ce que le Seigneur peut faire encore avec vous. Les dix, qui sont les dix? Les autres apôtres, hein? Ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et quel était le mobile de leur indignation? Probablement la jalousie, enfin je ne veux pas les mal juger, mais peut-être qu'ils regrettent de n'avoir pas fait eux-mêmes la demande. Avant eux. Mais maintenant, alors que le Seigneur a répondu, alors, ils sont bien d'accord avec le Seigneur. Alors, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hélas. Hein? Et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, comme nous devrions revenir à cela même dans nos églises. Parce qu'il n'y a pas que les chefs des nations, il y a aussi des chefs d'église qui dominent bien souvent et qui tyrannisent. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ça nous remet bien à notre place. Hein. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que vous voyez, pour pouvoir dire des choses pareilles, il fallait qu'il les vive, le Seigneur. Or, vous savez où il était, de condition divine. Il s'est anéanti lui-même et il a revêtu la forme d'un serviteur, étant trouvé ici-bas en figure comme un homme. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et quand il s'agissait de s'asseoir au repas pascal et que personne n'a eu l'obligeance de laver les pieds de ses frères, qui s'est levé de table pour faire le service? C'est Jésus. Je vous ai donné un exemple afin que, comme moi j'ai fait, vous aussi, vous fassiez de même. Donc, ce que Jésus prêchait, il le vivait. Comprenez bien cela. Et que ses paroles restent en vous. Car le Fils de l'homme, verset 45, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà ce qui était dans le cœur du Christ.
Eh bien, croyez-le, frères et sœurs,
n'ambitionnons pas un poste élevé dans ce monde. Si le Seigneur veut vous le donner, il vous y placera lui-même et il vous donnera la grâce d'être fidèle comme ce fut le cas pour Daniel et Joseph. Mais par vous-même, contentez-vous de ce qui est humble. Associez-vous aux choses humbles. Vous aurez davantage l'occasion de glorifier le Seigneur. Parce que dès que vous voulez monter, eh bien, vous risquez toute espèce de tentation. C'est vrai ou c'est faux? N'est-ce pas? Après, on s'étonne. Alors, on va voir un troisième tableau. Matthieu 18. C'est toujours le Fils de l'homme. L'attitude de Jésus vis-à-vis des petits-enfants. Matthieu chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et je voudrais vous rappeler que Jésus est en train de monter où, quand on lui demande ça ? À Jérusalem. Et il les a avertis qu'il y allait pour y souffrir, pour y mourir. Mais eux, ils sont préoccupés de leur sort. Qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Et alors Jésus, ayant appelé un petit enfant, c'est tellement beau ça, il le plaça au milieu d'eux. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire, si vous ne changez de pensée, d'orientation, de sentiment, et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un petit-enfant, il ne peut pas entrer dans le monde. Il faut devenir adulte pour entrer dans le monde. Mais croyez-le, pour entrer dans le royaume des cieux, c'est tout le contraire. Un petit enfant, il n'a pas d'accès dans le monde. Mais pour avoir accès dans le royaume des cieux, dans un autre monde, c'est tout le contraire de ce que demande le monde. Il faut devenir un petit enfant. Comme un petit enfant. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voyez-vous, un petit enfant, il ne discute pas. Il croit. Il se confie. Et tant que vous discuterez, tant que vous vous laisserez guider par vos propres raisonnements, vous n'êtes pas propre pour le royaume de Dieu. La porte vous sera fermée. Il faut que vous admettiez que votre sagesse, votre intelligence, votre instruction même ne vont pas vous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est dur à accepter cela. Alors vous dites alors, à quoi ça sert que j'ai appris, tout ce qu'on m'a enseigné, je veux le mettre en pratique. Mettez-le en pratique, c'est une question de choix. Mais si vous vouliez suivre le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, vous verriez quelle sorte de sagesse il vous donnerait, quelle intelligence il vous donnerait. Ils sont devenus stupides par leur intelligence et par leur instruction, dit le prophète Jérémie dans son chapitre 10e. C'est pourquoi, verset 4, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ça? Mais est-ce qu'on en est là? Est-ce que nos enfants,
Est-ce que les petits enfants sont pour nous des gêneurs? Ou bien est-ce qu'on aime encore s'occuper de petits enfants? Quand vous vous occupez d'un petit enfant, vous recevez le Seigneur. Vive les baby-sitters. Et oui, dans un sens, il faut leur faire comprendre cela, que quand elles s'occupent de vos petits-enfants, eh bien, c'est du Seigneur qu'elles s'occupent. Elles ne le savent pas, peut-être. À vous de le leur révéler. Et ce sera quelque chose de fantastique. C'est beau, la parole de Dieu. C'est pas moi qui le vous dis. Celui qui reçoit un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Évidemment, avec tous les avortements, on ne peut plus recevoir beaucoup de petits-enfants. Mais si quelqu'un scandalisait, et notez bien que le mot scandaliser dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, c'est pas choquer, hein, c'est faire tomber, c'est faire trébucher, le sens de scandaliser dans l'Écriture. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il voudrait mieux pour lui. Et qui a dit cela? Jésus, l'homme doux et humble de cœur. Il voudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin. Vous en avez déjà vu? C'est pesant, oui. Qu'on lui mette cela autour du cou, beau collier, et qu'on le jeta au fond de la piscine. Non, au fond de la mer, hein, pour que ça soit assez profond, qu'il ne s'en sorte pas. Voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que Jésus dit. Si vous scandalisez un petit enfant, et on doit dire que depuis qu'il a dit cette parole, eh bien, dans le monde, on fait tout pour scandaliser nos enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allez voir ce qu'il dit dans les écoles. Des professeurs font tout pour enseigner les enfants contre les Écritures, pour dire que Jésus n'a pas dit les paroles de l'Évangile, ce sont les apôtres qui ont inventé ça, et ce sont même des théologiens. Eh bien, les requins en auraient à manger. Si on mettait tous ces gens-là qui scandalisent nos enfants avec une meule, dans le fond de la mer, on verrait les eaux de la mer monter comme ça. C'est quelque chose de terrible. Mais vous savez, le doux Jésus, comme on l'appelle, c'est un Jésus qui peut avoir des paroles d'acier et de feu. Et nous devons nous en souvenir, il sera le juge de toute la terre, car c'est lui, le Fils de l'homme, qui a le droit de juger. Nous allons voir cela dans une autre soirée. Alors, prenez bien garde de ne pas scandaliser un petit enfant, de ne pas détruire en lui la foi qui est déjà dans son cœur. On l'a enseigné dans nos familles, on le met à l'école, il revient, mais papa, mon professeur, il a dit que ça, c'était pas vrai, que ce sont des légendes, que ce sont des mythes, etc. Et vous connaissez l'histoire. Malheur au monde, à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme, par qui le scandale arrive? Alors, j'ai à me dire, est-ce que moi je scandalise un de ces petits? Est-ce que je suis une pierre d'achoppement par ma manière de vivre, par mes paroles, pour l'un de ces petits? Jésus a dit malheur. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, ma main par laquelle j'agis, ou mon pied par lequel je me déplace pour aller en certains lieux, deviennent une occasion de chute, il vaut mieux les couper. Ben, pas comme l'ayatollah Khomeini, et qui prend la hache et qui coupe réellement, mais il vaut mieux s'en séparer. Hein. Ne pas employer mon pied pour aller en certains lieux, si dans ces lieux-là, je m'en vais succomber à la tentation.
et me séparer de ma main, ne pas employer ma main, si je sais que ma main sera pour moi une occasion de chute. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds et les deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, cet œil n'est pas par lequel toutes les pensées entrent dans notre cœur, toutes les visions qui peuvent nous faire chuter, eh bien, devient une occasion de chute. Mais il y a des choses que je n'irai pas voir, que je ne regarderai pas. Je m'en séparerai. C'est là, arrache-le et serre-le loin de, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la gêne du feu éternel. Vous devez comprendre cela d'une façon très simple. Si par exemple, boire un verre de vin, je ne suis pas capable de m'arrêter, eh bien je dois couper. C'est là l'abstinence. Il n'est pas mauvais de boire un verre de vin ou autre chose, mais si c'est pour nous une occasion de chute, il vaut mieux s'en abstenir. Si vous ne pouvez pas boire avec modération, si après le verre, vous buvez toute la bouteille et même le tonneau, eh bien, ça ne va pas. Vous comprenez bien qu'il vaut mieux vous en séparer. Et c'est comme ça que vous aurez des victoires. Il faut s'aider. Selon l'enseignement du Seigneur. Et alors, le Seigneur aussi nous gardera. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et c'est cela qui est tellement touchant. Écoutez le Seigneur. Parlez des enfants. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux, et vous avez étudié un peu ce que sont les anges, hein, et c'est de ce verset-là que, dans la tradition, on a parlé de l'ange gardien. Leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et on a dit, et je crois avec raison, que s'il n'y avait pas un ange pour un enfant, il n'arriverait jamais à l'adolescence. Il aurait un accident avant. Que de fois les enfants ont été préservés. Et nous y croyons à cela. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Les enfants, les petits-enfants aussi sont perdus. Ils naissent de la chair, comme nous, mais s'ils sont sauvés, c'est à cause du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est magnifique. Tous les petits-enfants sont sauvés, qu'ils soient de parents chrétiens, ayant la foi, ou qu'ils soient de parents mondains. De sorte que tous les petits-enfants qui sont repris par le Seigneur avant l'âge de la responsabilité, ce sont des enfants qui sont sauvés, parce qu'eux n'ont pas dit non au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de chercher les enfants dans le monde où ils sont égarés, ils sont à lui. Les petits-enfants sont à lui. Pour quelle raison? Pas parce qu'ils n'ont pas encore fait des péchés graves, parce qu'on sait très bien que même les petits-enfants, souvent ils disent non avant de dire oui, n'est-ce pas? Eh bien, ils savent dire non, les petits-enfants, et on sait déjà voir cette volonté rebelle. Mais le Seigneur est venu pour les sauver. Et notez la valeur des mots ici, parce que je m'en vais terminer avec le contraste d'un adulte. Quand le Seigneur parle des enfants, il dit qu'il est venu pour les sauver. Il est venu pour les sauver. Si les enfants sont sauvés, c'est en vertu du sacrifice de Christ. Mais tous pouvaient être sauvés, car il est mort non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Qu'est-ce qui nous perd? C'est de refuser. Il n'y a pas des êtres qui sont prédestinés d'avance à la perdition, mais le Seigneur est venu pour le salut du monde entier. Mais il y a un moment où sa patience a un terme et où notre nom est effacé du livre
de la vie. Il y a des choses merveilleuses à étudier dans la parole de Dieu. Les enfants sont sauvés. Cette multitude d'enfants qui meurent, on les voit sur les journaux. C'est pas pour vous dire, hein. Eh bien, continuons de les affamer. C'est pas cela. Mais heureusement, savoir que le Seigneur les prend. Puisque les hommes ne veulent pas partager la nourriture avec ses enfants, le Seigneur les prend. Mais à notre honte, ils nous montrent leur visage. Mais vous ne les verrez pas comme cela dans l'au-delà. Mais quelle responsabilité. Vous avez dû voir ces visages. Parce que nous mangeons trop et que nous ne partageons pas avec les autres. Mais ces enfants-là, Dieu est en train de faire une riche moisson d'âmes, puisque les adultes, puisque les gens sages et intelligents n'y croient pas, Dieu moissonne parmi les enfants. Et les prend auprès de lui, soit par des famines ou par des guerres. Et alors nous parlons des droits de l'homme, nous disons beaucoup de choses. Les petits enfants que le Seigneur a pris. Vous savez ce qu'ils voient? Vous savez ce qu'ils contemplent, eux, maintenant? Au lieu des horreurs de la guerre, ils voient la face de leur Père qui est dans les cieux. Et ils sont heureux. C'est pas moi qui vous le dis. Heureux sont les petits enfants que le Seigneur a pris auprès de lui. D'abord, ils sont loin de ce monde de péché, loin de ce monde de mal, loin de ces institutions qui vont en faire peut-être des bandits et des brigands alors qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Que de gens qui ont mal tourné, les enfants qui sont partis. J'ai connu des mères qui ont supplié le Seigneur de leur guérir leur enfant qui devait s'en aller. Et le Seigneur leur a répondu, oui, quand on fait la scie au Seigneur. Puis après, ils ont dit, si seulement nous l'avions laissé partir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous avez un peu de contact avec le monde et puis que vous entendez un peu ce que l'on vous raconte, vous verrez que bien souvent, ça aurait été meilleur de laisser partir son enfant. On l'a voulu, on l'a gardé, on l'a choyé, et puis on l'a perdu, parce qu'on a voulu pour lui une situation brillante dans le monde, et une fois qu'on l'y a placé, alors on est là en prière. Mes chers amis, nous devons tout revoir dans la manière dont nous éduquons nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Et alors, après cette manifestation de l'amour de Jésus pour les enfants, alors qu'il dit encore, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est à de tels qu'est le royaume des cieux, puis il les prenait dans ses bras et il les bénissait. Je termine par Luc 19, un récit très court que vous connaissez. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Toujours le regard de Jésus. Il sait ceux qui le cherchent. Il leva les yeux. Et il lui dit, Zachée, il nous connaît par nos noms, descends vite. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui! Voilà de nouveau l'aujourd'hui. Dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il désirait voir Jésus. Est-ce que vous désirez vraiment voir Jésus? Est-ce que vous désiriez qu'il entre dans votre demeure, dans votre maison, d'abord dans votre cœur? c'est possible. Alors voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur.
Chez qui aurait-il pu loger à Jéricho? Chez quel homme qui n'était pas pécheur aurait-il pu aller loger à Jéricho? Vous le connaissez? Vous voyez comment nous jugeons. Il est allé loger chez un homme pécheur. Et moi qui dis que cet homme-là est pécheur, est-ce que je ne suis pas un pécheur? Mais évidemment, Zachée était percepteur d'impôts, il avait mauvaise réputation parce que il prélevait les impôts chez les Juifs pour les Romains qui étaient l'occupant, il était au fond collaborateur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus ne lui a pas fait un long discours, mais sa seule présence dans sa maison a fondu le cœur de Zachée. En regardant Jésus, en voyant Jésus, il s'est dit, je ne peux plus continuer comme avant. Si j'ai trop prélevé, maintenant je m'en vais rendre au quadruple les torts que j'ai faits. Et puis, au lieu d'être capitaliste, je m'en vais donner la moitié de mes biens. Et les gens ne voulaient pas qu'il entre dans cette maison. Ils ne savaient pas que Jésus, entrant dans cette maison, eux-mêmes allaient bénéficier de la visite de Jésus chez Zachée, parce qu'ils auraient la visite de Zachée plus tard, qui viendrait leur rendre 4 fois ce qu'il leur avait pris. Ça vaut la peine que Jésus entre dans un cœur, laissez faire l'œuvre de Dieu. Et alors Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Qui c'est le salut? C'est Jésus. Vous voyez que c'est vrai ce que nous vous disons, que Jésus est le salut, que le salut c'est pas quelque chose. Le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est fils d'Abraham. Quoique juif au service des Romains. Et il ajoute, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a donc un mot de plus pour les enfants. Pour les adultes, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit aller chercher. Parce que les adultes se sont éloignés de lui. Les enfants sont là. Mais les adultes, le Seigneur doit aller chercher. Il vous cherche? Vous cherche-t-il encore?
Nous allons prier. Ô Seigneur Jésus, toi qui t'appelais le Fils de l'homme, te bénissons d'avoir revêtu notre humanité pour venir nous dire comment nous devions vivre sur la terre. Quels sont les sentiments du cœur de Dieu pour les hommes, pour tous les hommes? Nous sommes bouleversés. Ta visite est une révélation. Maître du sabbat, tu ne veux plus que nous soyons sous le joug des lois. Tu veux que nous connaissions la grâce. Ce qui compte, c'est toi, Seigneur. Ce n'est pas les prescriptions des hommes. Et même toute cette loi que tu avais donnée, tu ne nous demandes plus d'être sous cet esclavage. Car cette loi qui venait de toi, nous n'avons fait que la transgresser le plus souvent. Mais tu veux que nous soyons avec toi, qui a accompli la loi. Et quand nous t'avons toi, Seigneur, nous n'avons plus une loi rigide, mais nous avons l'amour, qui peut tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout. L'amour qui rend facile toute chose. Ô merci, maître de la loi, maître du sabbat, de nous faire connaître en toi le repos. Merci, ô Seigneur, de nous enseigner quels sentiments nous devons avoir, même pour ceux qui ne veulent pas nous recevoir, ni te recevoir. Apprends-nous à les aimer quand même.
à savoir que même si aujourd'hui ils nous repoussent, demain il y aura une heure de grâce pour eux, comme ce fut le cas pour les Samaritains, qui furent eux aussi baptisés du Saint-Esprit, alors que les apôtres voulaient les anéantir. Donne-nous de ne pas être de ceux qui anéantissent les âmes parce qu'elles nous résistent, mais de ceux qui les aiment, même si nous devons nous en éloigner. Que ta grâce nous instruise et que nous puissions, dans le chemin, être vêtus des sentiments les plus humbles. Apprends-nous la leçon que tu as donnée à Jacques et à Jean et donne-nous de nous satisfaire de savoir qu'à tes pieds il y a de la place pour tous. S'il n'y a qu'une place à ta droite et une à ta gauche, à tes pieds, nous pouvons tous nous asseoir. Ô Seigneur Jésus, qu'il nous suffise d'être à tes pieds ou à la place que toi tu voudras bien nous donner. Tu es allé nous préparer une place, que nous en soyons conscients de cette vocation céleste et que nous puissions marcher ici-bas d'une manière digne du Seigneur, devenant ces petits enfants qui ne discutent plus, qui ne raisonnent plus, mais qui croient le Père, qui ne peut pas les tromper. Et accorde-nous, Seigneur Jésus, d'aimer ces enfants qui nous parlent de ton royaume, qui sont les futurs habitants du royaume. Nous voulons te demander de déchirer ce voile qui nous fait crier à l'injustice quand nous voyons tant d'enfants malheureux. Si toi tu les reprends, c'est parce que nous n'avons pas été à notre place. Mais nous savons que ce n'est pas toi qui les as amenés dans cet état. Si nous, notre égoïsme, alors n'en pouvant plus, tu les as retirés, mais tu as voulu que nous ayons leur visage pour parler à notre conscience. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre dureté et donne-nous de te rendre grâce et de te donner gloire et de dire que toi seul es miséricordieux, que toi seul es juste, que toi seul es saint, que toi seul tu es amour, que c'est nous qui ne comprenons pas tes voies, que c'est nous qui ne comprenons pas tes conseils. Donne-nous de savoir nous taire, rentrer en nous-mêmes, et que ce soit une soirée d'humiliation devant ta face, car tu résistes aux orgueilleux, mais tu vas faire grâce aux uns, et que nous soyons de ceux qui, comme Zachée, en te recevant, voient leur cœur se fondre et sont transformés pour ne plus être des accapareurs, mais de ceux